Bien, pardon pour ce tout petit retard. Donc, aujourd'hui, nous allons commencer la série d'études de cas qui doit illustrer à la fois le thème du cours, si j'arrive à me libérer de cette file qui rend les choses complexes, et qui était à la fois l'intitulé, voilà. On a de grands problèmes, vous voyez. C'est des histoires connectées, là, mais il faut les déconnecter. C'est fait. Merci. Donc, d'une part, l'intitulé général du cours qui est sur écrire et publier à l'âge moderne, entre 16e et 18e siècle, et d'autre part, comme je l'avais dit, des croisements, l'expression est peut-être bien choisie, avec des thèmes abordés aussi dans le séminaire sur des histoires textuelles connectées, c'est-à-dire de prendre des études de cas pour, à partir de textes qui ont connu des circulations amples à cause de leur diffusion ou à cause de leur traduction dans l'Europe moderne. Et aujourd'hui, je voulais commencer avec une analyse de quelques aspects de l'un des textes les plus fondamentaux des 16e et 17e siècles, c'est-à-dire le texte de Bartolomé de las Casas, La très brève relation de la destruction des Indes, un texte publié sous forme d'un livre ou livret en 1552 à Séville. Alors pourquoi ce choix ? D'une part parce qu'évidemment le texte de las Casas a connu, sinon en Espagne, mais du moins dans toute l'Europe, un flot de traductions qu'on suivra peut-être la fois prochaine, hollandaise en 1578, française en 1579, anglaise en 1583, allemande en 1597 et la traduction en latin, rendue fameuse par la présence des gravures de l'édition de Théodore de Brie. Donc une circulation européenne avec de très nombreuses rééditions, en particulier en hollandais, en néerlandais et en français, qui a fait du texte de las Casas le texte emblématique de la leyenda negra, de la légende noire attribuée par les ennemis de l'Espagne à l'Espagne tyrannique et cruel dans sa colonisation. Donc il y a là un texte fondamental à la fois pour les raisons politiques que j'évoque et aussi par le fait que c'est un des textes les plus largement circulés, qui a le plus largement circulé dans l'Europe de la première modernité. La seconde raison, c'est peut-être liée à cette institution, puisque dans le Collège de France, dans les années entre 45 et 55, Marcel Bataillon a consacré une série de cours d'analyse à las Casas, qui ont été rassemblés ensuite dans un volume en 1965, Études sur Bartolomé de las Casas, réédité plusieurs fois, en particulier en espagnol. Or, la figure de Bataillon est évidemment une figure fondamentale pour l'hispanisme français, une figure essentielle pour le Collège de France, où il est devenu administrateur à partir de 1955, et où, me semble-t-il, c'est lui rendre hommage à son travail fondamental sur las Casas que de reprendre ce même dossier. Je me suis aperçu d'ailleurs que le cours de mon collègue Carlo Rossola, à partir de janvier de 2013, est consacré à Erasme et l'Europe et a pour sous-titre de Johann Huizinga à Marcel Bataillon, puisque l'œuvre monumentale, fondamentale de Bataillon sur Erasme et l'Espagne demeure une référence essentielle. Alors pour entrer dans cette matière et pour illustrer l'idée des processus de publication et d'autre part des connexions entre les textes, ce que je voudrais faire, c'est évidemment de comparer, de croiser le texte espagnol tel qu'il a été publié en 1552 avec la traduction française qui en a été donnée en 1579 par un protestant flamand, Jacques de Migrod, un texte publié à Anvers en 1579. Et le jeu serait à la fois de se servir de cette traduction pour donner accès au texte de Las Casas, puisque tout le monde ne comprend pas nécessairement l'espagnol, et d'autre part de montrer comment que cette traduction est en fait une appropriation dans un contexte historique complètement transformé du texte de Las Casas, puisque la traduction a pour titre, je vais revenir tout de suite sur le titre du texte de 1552, le texte espagnol, et d'ailleurs on pourra le regarder ensemble après la petite pause, puisque on pourra le projeter sur écran, la page de titre. Le texte de 1579, la traduction française, en français, de Jacques de Migrod, publié en vers, a pour titre « Tyrannie et cruauté des Espagnols, perpétrée S-Inde occidentale », c'est-à-dire l'Amérique, « qu'on dit le Nouveau Monde, brièvement décrite en langue castillane par l'évêque Don Frère Barthélémy de Las Casas, ou Casaos, espagnol, de l'ordre de Saint-Dominique, fidèlement traduite par Jacques de Migrod, pour servir d'exemple et d'avertissement aux 17 provinces des Pays-Bas. » Et il y a ensuite, sur la page de titre, un épigramme, « Heureux qui devient sage en voyant d'autrui le dommage. » Et donc le contexte, c'est évidemment cette même année 1579, la rébellion de 7 provinces calvinistes des Pays-Bas espagnols contre le souverain espagnol. Et du coup, la traduction de Migrod du texte de Las Casas devient en quelque sorte comme la traduction d'une préfiguration de ce qui pourrait advenir aux Pays-Bas révoltés à partir comme répliquant ce qui est advenu au peuple indien d'Amérique. Comme l'indique le prologue, c'est ce que connaîtraient les Pays-Bas si Dieu ne les avait pas empêchés jusqu'alors de commettre ce qui pourrait être commis en parallèle par les Espagnols aux Pays-Bas et dans les Indes occidentales. Alors on peut partir du texte espagnol, il est disponible dans plusieurs éditions contemporaines modernes, une est celle de Cathedra, très belle édition faite par André Saint-Luc, qui avait été un des auditeurs et un des disciples de Bataillon, et une autre qui est publiée dans la Galaxia de Gutenberg, Círculo de los Lectores, avec une un travail philologique et textuel très précis de José Miguel Martínez Torrejón. On pourrait partir donc de cette page de titre que nous ne voyons pas, mais que nous verrons, dans la mesure où sur cette page de titre, il n'y a pas le nom de l'imprimeur, il n'apparaît qu'au colophon, c'est-à-dire à la fin de la dernière page, comme étant Sébastien Trujillo, qui est un imprimeur de Séville et qui est l'imprimeur des 8 traités de Las Casas qui sont publiés en même temps dans cette année 1552. On reviendra sur les raisons de cet ensemble de textes de Las Casas publiés cette même année dans la même ville de Séville, et pour 7 d'entre eux, par Sébastien Trujillo. La seule mention qui se réfère avec l'impression sur la page de titre, c'est la date de 1552. Alors je crois que, comme je l'ai fait quelquefois dans les séminaires ou les cours antérieurs, il faut toujours porter une très grande attention aux pages de titre qui non seulement créent un horizon d'attente pour le lecteur, mais ensuite, d'autre part, donne d'extrêmement précieuses indications sur le registre ou le genre du texte. Et ici, la première mention sur cette page de titre, c'est évidemment l'expression de « brevissima relation », d'une relation très brève. Et les deux mots ont évidemment de l'importance, dans la mesure où « relation » était le mot qui s'emploie à la fois pour un genre officiel d'une description, d'un rapport, d'une informe, et qui avait été utilisé très souvent par les conquistadores ou par les administrateurs des Indes. Et le terme de relation implique, non pas nécessairement, mais le plus souvent, le caractère de témoignage, d'attestation de ce qui est narré et décrit, et donc du coup une référence à une observation la plus directe possible des faits rapportés. Et donc on a là cette dimension qui va circuler dans tout le texte de Las Casas, qui est que l'authenticité de ce qui est rapporté est liée à cette présence du « je », à la présence de ce qu'on peut appeler l'autopsie, le voir par soi-même. Et le terme de relation convoyait cette notion. Brevissima, très brève relation, est un superlatif pour un adjectif qui est employé assez souvent dans ce genre, c'est-à-dire la brièveté du récit comme étant en rapport avec l'importance des faits relatés, mais en même temps, comme on va le voir, avec l'emploi de summa, epitome, une idée d'un texte qui peut être éventuellement la forme brève d'un texte qui serait un texte plus long, qui est par exemple la définition que l'on trouvera de épitomé, qui est les premiers mots de premier préliminaire, et qui renvoyait à cette idée d'une forme brève, d'un texte d'une plus longue importance. Et peut-être ici une allusion de Las Casas à un texte qu'il ne publiera pas de son vivant, mais qui est son Historia de las Indias, et qui est un livre monumental, dont finalement la destruction des Indes ne serait que l'essentiel résumé. Alors, brevissima relation. De quoi ? De la destruction de las Indias. Et ici, le mot destruction qui a été repris évidemment dans la plupart des traductions modernes est un mot qui renvoyait directement au latin destruere, qui non seulement est détruire, mais a un sens de défaire, de désoler, de dépeupler. Et une des thématiques de la destruction des Indes, de la destruction de las Indias, c'est ce thème obsédant du dépeuplement, les cruautés et tyrannies des Espagnols conduisant à la destruction, parfois absolue, totale, selon Las Casas, des populations indiennes. Or, cette thématique a une importance clé dans une pensée politique qui faisait dépendre la puissance d'un royaume, du nombre de ses peuples. Et la plainte ou la désolation de Las Casas par rapport à cette destruction faite par les colonisateurs, elle est directement liée à cet épuisement des populations qui est privé finalement le roi de Castille et Léon, le roi d'Espagne, de la ressource première, la plus fondamentale, de la richesse la plus essentielle, c'est-à-dire le nombre des peuples. Donc, destruction est souvent le synonyme de ce dépeuplement. Ensuite est introduit dans le titre quelque chose qui va venir croiser l'idée de relation comme témoignage, authenticité de la présence, de l'observation des faits, et qui est colegida por el obispo. Colegida, ce qui voulait dire rassemblé, réuni. Collationner, ce qui impliquait évidemment de, ici, comme on peut le suivre dans le dictionnaire de Covarrubias, lorsqu'on veut saisir un sens historique au XVIe ou XVIIe siècle d'un mot dans l'espagnol du temps, un des moyens que l'on a et qui est plus puissant que ce que l'on pourrait faire sur le français du XVIe siècle, c'est de se référer à ce trésor de la langue castillane ou espagnole de Covarrubias, publié en 1611. Et lorsqu'on va à colegir, colegido, on voit qu'il s'agit bien de rassembler pour faire une somme, de réunir des informations déjà disponibles. Et donc, ici, dans cette indication du titre, choisi ou non par Las Casas, c'est une autre question, on a bien l'idée que le texte n'est pas seulement le témoignage des choses vues, mais est aussi une réunion de l'essentiel de sources disponibles. Et effectivement, dans de très nombreux chapitres qui sont construits dans le livre comme une succession géographique qui suit finalement les avancées de la colonisation espagnole, en commençant par l'île d'Hispaniola, Saint-Domingue, jusqu'à les derniers chapitres consacrés à la Floride ou au Pérou, l'ordre géographique du texte est un ordre chronologique de la conquête. Et évidemment, si, je dirais pourquoi, Las Casas a été un témoin oculaire des premiers temps de cette conquête, dans l'île d'Hispaniola, à Saint-Domingue, et puis ensuite dans les premières expéditions à Cuba, il ne l'a pas été pour la conquête de Cortés, et encore moins celle du Pérou. Et donc, à partir de cette dimension-là, il mobilise des fragments de textes qu'il a collegio, qu'il a collationné, rassemblé, réuni dans son livre. Mais cette contradiction qui a été soulignée parfois par certains éditeurs du texte, pour la contradiction entre la relation qui suppose l'observation personnelle et la réunion qui suppose évidemment le rassemblement de lectures, peut être surmontée si on pense à, en retourne à Covarrubias, parce que pour lui, colegir, c'est faire une somme de nombreuses choses entendues, vues ou lues, que hemos oído, visto o leído, ce qui est terse lié à une épistémologie du temps dans laquelle il n'y avait pas la même différence de radicale que l'on a pu établir plus tard, peut-être déjà avec des préfigurations dès le XVIe ou le XVIIe siècle, entre les choses vues et les choses lues. La technique dominante de l'intellectuelle de la Renaissance, qui est la technique des lieux communs, c'est-à-dire d'extraire soit de l'expérience, soit des lectures, des modèles, des exemples, des sentences, des vérités universelles, est une technique qui repose sur ce que décrit ou désigne Covarrubias, c'est-à-dire est une technique qui peut mettre sans rupture épistémologique des témoignages écrits et une observation personnelle. À partir de là, on voit que finalement, la relation qui existe entre relation et collection n'est pas de discontinuité radicale du point de vue de production de la connaissance, mais peut être pensée dans un même horizon épistémologique. Alors, qui a réuni cette somme, qui a produit cette brevissima relation? L'évêque Don Fray Bartolomé de las Casas ou Casaos de l'ordre de Saint-Dominique. Un trait intéressant est le fait que au moment de cette publication, donc en 1552, Las Casas n'est plus évêque. Il avait été nommé évêque de Chiapas, mais en 1550, il a résigné sa charge, il a abandonné le titre épiscopal. Maintenir, par sa volonté ou celle de l'imprimeur, ce titre sur la page de titre a une fonction. Peut-être on peut rester évêque même lorsqu'on ne l'est plus, mais plus précisément, c'est ici, alors qu'il a abandonné la charge, le fait de donner un critère d'authenticité, de crédibilité au texte, avec le poids de cette autorité épiscopale qui a été la sienne lorsqu'il a été donc nommé évêque de Chiapas. On reviendra sur cet épisode, cette nomination pour lui pouvant être liée au projet d'une alternative à la colonisation militaire de l'Espagne par une sorte d'utopie agraire, une colonisation qui serait une évangélisation faite par des missionnaires sans présence de colons laïcs, et en particulier sans présence de seigneurs de la terre, et éventuellement appelant à la présence de laboureurs et d'artisans venus d'Espagne. Et donc la nomination pour lui était une manière de pouvoir animer et soutenir un tel projet de colonisation qui aurait été alternatif à celui des cruautés et tyrannies commis par les Espagnols. Autre trait intéressant, le fait qu'on dit Bartolomé de las Casas ou Casaos, qui était le nom d'une famille noble de Séville, à laquelle il est difficile de rattacher las Casas. C'est la première fois que cet lien est établi entre son nom et le nom de cette famille, sans doute avec le même propos, qui est de renforcer la crédibilité, l'authenticité, la vérité du récit, dans un moment où, autre donnée épistémologique, si je peux dire, la hiérarchie de l'accréditation va de pair avec la hiérarchie sociale et la parole nobiliaire ou aristocratique pouvant être reçue comme une parole de vérité parce qu'elle est désintéressée, parce qu'elle n'est pas liée à un intérêt économique plus immédiatement qu'une autre parole. C'est un des éléments clés pour comprendre pourquoi, dans le domaine des découvertes scientifiques, de connaissances, la parole aristocratique, le témoignage aristocratique peut être un garant de ce désintérêt dans la découverte et donc, du coup, de lui donner validité et authenticité. Et donc, du coup, on voit qu'il y a à la fois l'utilisation de ce titre d'évêque alors qu'il ne l'est plus, et d'autre part, cette présence, pour la première fois, dans une signature de las Casas, de ce lien établi avec une ancienne famille noble de Séville, il y a un poids d'autorité qui est mis en jeu. Et de l'ordre de San Dominique, de Santo Domingo, c'est le fait qu'en 1522, las Casas est rentré dans cet ordre missionnaire en Amérique. Alors si on s'interroge de pourquoi il y a peut-être ce renforcement d'un poids d'autorité, c'est lié à une autre absence. L'absence est sur la page de titre et dans les préliminaires de toute mention de ce qui est le mécanisme normal de la censure dans l'Espagne du siècle d'or, c'est-à-dire le fait qu'un texte est soumis au conseil du roi, qui le envoie à des censeurs, qui donne leur approbation, approbaciones qui doivent être publiées dans le livre, et qu'à partir de ces approbations, d'un, deux ou trois censeurs, est concédée une autorisation d'imprimer, una licencia, et le plus souvent un privilège qui est le monopole sur la publication de ce titre durant un certain temps. Rien de tout ça n'apparaît ni sur la page de titre, ni dans les préliminaires. On a donc affaire, pour ce traité, comme pour les sept autres traités publiés en même temps en 1552 à Séville, à une publication qu'on peut dire en marge de la légalité, en marge du mécanisme de la censure, qui normalement suppose approbation, licence et éventuellement, mais le plus souvent, privilège. Toute la critique s'est beaucoup interrogée sur les raisons de cette absence, et on retrouvera ce problème dans l'analyse de certains moments du texte. Une des premières raisons évoquées pouvant être que la volonté de las Casas de ne pas se soumettre à la censure, ce qui aurait pu présenter peut-être des risques vu le contenu de la dénonciation du texte, et donc, ou du coup, excipé de sa qualité d'évêque, et peut-être une manière finalement de devenir le censeur de soi-même, et donc de s'autoriser cette publication sous le poids de cette autorité. Une autre raison, plus politique, pourrait être qu'il y a en fait une tolérance tacite du roi, dans la mesure où du prince, puisqu'à l'époque, c'est le prince Philippe, le futur Philippe II, qui est chargé du gouvernement des Indes en l'absence de Charles Quint, qui est en voyage. Et du coup, cette idée d'une tolérance tacite pourrait être avancée si l'on admet qu'une des cibles du texte n'est pas du tout la souveraineté du prince, mais est la mauvaise et détestable administration des Indes confiée aux colons d'Amérique, à ceux que détiennent les encomiendas, je vais revenir sur ce point, et donc du coup une menace éventuelle pour la puissance du prince, comme le montraient à l'époque les guerres du Pérou, par cette autonomie ou liberté conquise par les aristocraties locales. La cible fondamentale de Las Casas étant le régime qui a rendu possible la constitution de cette élite aristocratique aux Indes, il est possible que le texte ait bénéficié d'une sorte de protection tacite de la part de la monarchie. Une autre raison que l'on verra, peut-être aussi l'urgence, dans la mesure où en 1552, Las Casas se trouve à Séville, il n'a pas abandonné le projet de cette colonisation pacifique faite d'abord par l'évangélisation des missionnaires avant toute arrivée de colons espagnols. Et justement, en 1552, à Séville, il a rassemblé des missionnaires prêts à partir et qui partiront pour les Indes occidentales, pour l'Amérique, et il faut leur donner des matériaux pour leur apostolat et pour leur perception de la réalité indienne. Et donc, la moitié au moins de ces 8 traités sont destinés à ces missionnaires qui s'embarquent. Et effectivement, ils seront embarqués avec eux pour les Indes. Il y a donc toutes ces raisons autour de cette absence assez rare dans le monde de l'édition du siècle d'or de tout signe d'un mécanisme de censure et d'approbation royale. Alors, si l'on entre dans le texte lui-même, le premier texte que l'on rencontre, c'est quelque chose qui est présenté comme argumento del presente epitome, l'argument du présent epitome et du présent sommaire. Donc, c'est en quelque sorte un sommaire de sommaire, puisque si l'on admet que le texte lui-même pourrait être l'épitomé d'un texte plus long, ici on a en quelques paragraphes l'épitomé de l'épitomé, le sommaire du sommaire. En suivant la traduction de Migrod, on peut voir que le premier élément dans ce texte est un élément rhétorique, qui doit produire un effet puissant sur le lecteur. Avec ce, je cite, « Toutes les choses advenues est-ce Inde, depuis qu'elles ont été miraculeusement découvertes, et depuis que premièrement les Espagnols y allèrent, pour y demeurer quelque temps, et puis après successivement, jusqu'à cette heure, ont été en toute manière tant merveilleuses et incroyables à qui ne les a vues, qu'elles semblent être suffisantes pour obscurcir et mettre en oubli et silence toutes les autres qui furent jamais en ce monde au siècle passé, tant est-elle était grande. Entre ces choses sont les tueries et carnages des gens innocents et les dégâts des villes, provinces et royaumes qui ont été commis et perpétrés avec autre chose non moins épouvantable. » Alors, le ressort rhétorique de cette première phrases du texte est complexe dans un sens, puisque le point de départ est finalement de contraster ce qui est considéré et donné dans le texte et dans la traduction comme Maravilloso descubrimiento, traduit par Migrod comme miraculeusement découverte, cette merveille qui a été la découverte des Indes et qui a produit ces choses si admirables et si incroyables qu'elles paraissent rendre, faire obscurité pour tout ce qui les a précédées. Donc, ce qui pouvait être ce registre d'autres textes sur la découverte des Indes, ce registre de la merveille, un livre de Greenblatt a pour titre ses merveilleuses possessions. Donc la maravilla qui peut être la surprise miraculeuse, qui peut être l'émerveillement devant la nouveauté. Et donc, par rapport à cette merveille, les crimes commis qui entrent dans cette catégorie, à la fois la catégorie de ce qui produit espanto, les choses épouvantables, mais espanto a plutôt le sens des choses extraordinaires, qui sont au-delà de l'ordinaire, mais surtout le fait que dans la manière de désigner cette, ce qui est advenu dans les Indes, il y a l'emploi par Las Casas du mot asaniosas. Toutes ces choses ont été héroïques. Asaniosa a un sens qui est le sens de choses admirables, de choses grandes. Si vous allez à Covarrubias, on voit que una hazaña, c'est un acte héroïque et fameux. Et la rhétorique de Las Casas, c'est d'inclure dans ce vocabulaire ou ce lexique de la merveille ou de l'acte héroïque ou de faits admirables, qui sont des thèmes classiques d'une apologétique de la colonisation, comme dans une rupture d'écriture et de ton, las matanzas y estragos de gente inocentes y despoblaciones de pueblos, c'est-à-dire les crimes, ce qui a été traduit par Migrode, les tueries et carnages de gens innocents et les dégâts, au sens de dépopulation, des villes, provinces et royaumes. Il y a donc comme une sorte d'ironie tragique, de contre-pied des formules acceptées, d'utiliser tout le registre lexical qui pouvait être le registre de la glorification de la conquête, avec soit l'émerveillement devant des choses inouïes, jamais vues, soit la grandeur des exploits héroïques. Et dans ces deux catégories, de faire entrer finalement leur contraire, qui est les tueries et massacres. Les points qui les lient l'une à l'autre étant peut-être l'espanto, espanto dans son sens du temps, c'est-à-dire l'extraordinaire, mais un extraordinaire qui tourne, qui vire à l'effroi, à l'horrible. Donc, il y a ce premier point de départ qui est une construction d'une rhétorique subtile de la part de Las Casas. Ensuite, entrant dans le texte, la seconde partie va en quelque sorte être une généalogie du texte. Lesquelles choses, ayant raconté à diverses personnes, ces choses étant donc les choses épouvantables ou qui ont produit cette extraordinaire relation qui est à la fois effroi et étonnement. Lesquelles choses ayant raconté à diverses personnes qui ne les savaient point, l'évêque Don Barthélemy de Las Casas ou Casaos, autant qu'il vint en cour, étant de moine fait évêque, pour en informer l'empereur notre Seigneur et sire, comme celui qui les avait toutes bien vues et connues, et ayant causé à qui les oyait à raconter une manière d'extase et de ravissement d'esprit, il fut requis et importuné d'en mettre brièvement par écrit quelques-unes, mêmement des dernières. On a donc là ici une série de contextes qui vont inscrire le texte à la fois dans l'histoire de Las Casas, la biographie, et dans l'histoire même du texte, sans oubliée, à un contexte proprement historique. Puisque lorsqu'il est question de quand Las Casas vint à la cour, il s'agit d'un retour en Espagne de Las Casas en 1540 pour essayer de persuader l'empereur Charles Quint, Nuestro Señor, de réformer ce qui était les modes de gouvernement aux Indes. Modes de gouvernement dont Las Casas avait été, pour commencer, un bénéficiaire, puisque le rapport entre Las Casas et les Indes commence en 1502, lorsqu'il part pour Saint-Domingue comme encomendero. Alors la encomienda était le régime de gouvernement des terres récemment découvertes ou conquises. Il s'agissait d'attribuer à un propriétaire, un encomendero, à la fois un territoire souvent immense et les Indiens qui étaient sur ce territoire, en échange d'une évangélisation et d'une christianisation qui était le ressort pour lequel, la raison pour laquelle le pape avait confié au roi d'abord de Portugal puis d'Espagne les territoires nouvellement découverts en souveraineté. Et donc le système de la encomienda était à la fois un système d'exploitation économique, puisque les Indiens attribués à cet encomendero travaillaient à son profit, soit dans les champs, soit dans les mines. C'était un système d'organisation sociale qui distribuait sous forme de principautés ou de seigneuries plus ou moins grandes, divisait le territoire et divisait les populations indiennes. Et c'était, en théorie, le support de l'évangélisation, puisque en échange de ces Indiens et de ces terres, de ces richesses d'hommes et de territoires, les propriétaires terriens devaient assurer l'œuvre d'évangélisation. Et c'est donc d'abord comme encomendero que Las Casas arrive à Saint-Domingue et participe ensuite à les expéditions qui, de Saint-Domingue, vont commencer la conquête jusqu'à des autres îles et puis ensuite de la terre ferme, et en particulier la conquête militaire de Cuba en 1513. Et c'est dans cette première expérience que s'opère pour lui une double rupture qu'il narre dans son Historia de las Indias, qui revient sur cette expérience, mais comme je le disais, n'a été publié qu'au XIXe siècle, restait toujours un texte manuscrit, et avec pour lui une double rupture en 1514, à partir d'une lecture de verset de l'Ecclésiaste, la perception de l'injustice et de la tyrannie, je reviendrai sur le mot qui est imposé aux Indiens par ce système de la encomienda, et du coup il renonce à sa propriété. Et en 1522-23, une deuxième rupture qui est son entrée dans l'ordre des dominicains. Et avant le voyage de 1540, alors qu'il réside à Hispaniola, il a, et à partir du moment de cette prise de conscience de l'injustice, il a averti plusieurs fois la monarchie par des mises en garde contre les crimes commis par les conquistadores. Il y a un premier voyage dès 1515 où il rencontre brièvement Ferdinand, le roi, pour le mettre en garde. Il y a d'autre part une lettre au Conseil des Indes en 1531 et finalement en 1540, il fait le voyage d'Espagne pour, comme le disait le traducteur, informer l'empereur des choses qu'il a vu, et en particulier ces choses épouvantables que sont les crimes et massacres et des populations des Indes. Et c'est sur la base, cette fois-là, de ce témoignage personnel derrière une relation que Las Casas essaye de convaincre le souverain, puisque le texte le disait, chaud comme celui qui, c'est-à-dire lui, Las Casas, les avait toutes bien vues et connues. Avec quien todas bien visto había. Donc c'est sur le point de son expérience, sur le fondement de vérité du témoignage du témoin, que peut se faire cet effort de conviction de la nécessité de briser ce qui est le système qui s'est imposé dans les Indes occidentales, dans les îles américaines, puis sur la terre ferme, avec le Mexique, par Las Casas. Déjà en 1515, c'était avec la même poids d'authenticité du témoignage après sa conversion qu'il avait essayé de convaincre Ferdinand V de la réforme. Le contexte de la production du texte, lui, est intéressant puisque vous le voyez qu'il suppose dans cette première approche deux temps. Un premier temps où il s'agit d'une écoute qui est faite à ce qu'il dit, et dans un deuxième temps, la mise par écrit, les quelque chose ayant raconté à diverses personnes qui ne les savaient point, ayant causé à qui les oyait, à qui les entendait raconter une manière d'extase et de ravissement d'esprit. Ici aussi, la première forme de publication est donc une forme de communication orale. Le fait que Las Casas dit, déclare, raconte. Et l'effet produit sur los oyentes, ceux qui ont écouté, ceux qui ont entendu, traduit finalement ici par Migrov, c'était l'idée que cela avait produit chez eux une manière d'extasie et suspension des animos. Et là aussi, les mots comptent. Ecstasy, traduit donc par extase, c'est la stupeur, l'émotion violente qui finalement projette l'individu hors de lui-même. Dans l'entrée de Covarrubias, on a l'individu fuera de todo sentido, qui est l'individu hors du sens, parce qu'il est frappé par cette émotion, c'est-à-dire par la force de l'imagination qui est excitée, suscitée par le récit, et finalement, son extasie qui pouvait être sur le registre du plaisir devient basculer sur le registre de l'effroi, de l'affliction, de la terreur. Et on peut penser que derrière ce mot, avec ce glissement de sens, on retrouve sur le registre lexical ce que j'ai désigné sur le registre rhétorique, c'est-à-dire l'épouvante dans la merveille. Et l'autre forme, suspension de animos, c'est le ravissement de l'esprit qui est le doute, la perplexité de l'âme ou de l'esprit, dit Covarrubias. On a donc avec ces deux mots l'idée que les relations faites oralement par Covarrubias produisaient chez ses auditeurs à la fois ce sentiment qui les portait hors d'eux-mêmes et en même temps insinuait en eux une très grande perplexité, instabilité de l'âme, suspension du jugement. Et c'est à partir de cette première forme de circulation de la relation que situe la seconde, c'est-à-dire on l'a enjoint, requis et importuné, rogado, importunado, d'en mettre brièvement par écrit quelques-unes de ces choses qu'il racontait, surtout des dernières, les dernières étant celles qui étaient liées avec les cruautés et les carnages, les tueries et les carnages, et pas seulement les premières qui pouvaient être liées avec l'émerveillement de la découverte. Et donc, on a une mise par écrit du texte, avec effectivement une trace de cette mise par écrit qui est un manuscrit de la Brevissima Relation, conservé dans un couvent à Valencia, qui n'est pas un manuscrit autographe de Las Casas, mais qui est une copie faite par deux copistes. À l'intérieur de ce couvent, et qu'on retrouve dans un volume de miscellanée de différents textes du prieur de ce couvent qui avait pour nom Juan Mico, et qui donne le texte, pas la copie, mais le texte comme achevé le 8 décembre 1542. Donc effectivement, comme Las Casas a mis par écrit le contenu de ces relations, et ce manuscrit peut être considéré comme le premier état de la Brevissima Relation, mais qui ne passe pas à l'imprimer. On voit une autre figure rhétorique qui est présente dans le texte. Ici, c'est l'idée que Las Casas a été obligé, forcé, conduit à mettre par écrit ce qui peut-être il voulait conserver oralement. Avec un détail, mais qui peut être très intéressant, parce que d'un côté, cette communication orale pouvait rentrer dans l'avis au prince, puisque celui qu'il veut convaincre, c'est l'empereur, avant l'empereur, son fils Philippe, qui est en charge de l'administration des Indes. On est donc là devant un mode de persuasion, de conviction, qui est un rapport direct entre le témoin et le prince, par opposition à une circulation manuscrite qui est une forme de publicité donnée au texte. Et le deuxième élément, c'est cette figure qui est la figure de retrait de l'écriture, l'idée qu'écrire finalement serait une sorte de forme d'arrogance qui pouvait conduire à maintenir l'anonymat dans beaucoup de textes, mais qui pouvait être forcé lorsque certains demandant, exigeaient, requéraient que le texte soit mis par écrit. Et alors, il y a évidemment un troisième contexte qui est donné par la fin du texte, qui est celui de 10 ans plus tard, lorsqu'en 1552, le texte qui a circulé au moins dans cette copie manuscrite qu'on connaît, mais peut-être d'autres, est imprimé par cet imprimeur à Séville, 10 ans après sa rédaction. Alors le contexte de 1542, donc on voit que c'est le voyage de 1540 de Las Casas en Espagne pour convaincre le souverain de la nécessité de la réforme, le temps de 1542 où se discutent ces projets de réforme, la présence de Las Casas à la fois dans l'oral et puis par la mise par écrit de sa relation, le contexte, lui, politique ou historique de la double circulation de la relation, à la fois orale et manuscrite, c'est l'entreprise de réforme de la législation sur les Indes occidentales, qui, comme je l'ai rappelé, avait été établi en 1513 par les lois de Burgos, et leur réforme sera en novembre de 1542, donc un mois avant la fin, l'achèvement par Las Casas de la mise par écrit de sa relation, là, une réforme qui porte le titre de Leyes Nuevas, les nouvelles lois qui viennent se substituer à ces lois de Burgos de 1513. Alors, quel était l'enjeu essentiel? C'est évidemment cet enjeu de la encomienda qui avait été établie dès 1503 et sanctionnée par le texte de 1513. Comme je le disais, d'attribuer de très vastes territoires à chaque colon avec des Indiens qui leur étaient encomendados, recommandés, attribués, assignés, avec normalement
de la fin de les évangéliser, transformés à travers les descriptions de Las Casas en un esclavage ou une forme d'esclavage, puisque ces Indiens étaient privés de tout droit à la propriété, qu'ils étaient transformés dans un état de servitude comme travailleurs forcés dans les mines ou sur les champs, et qu'ils étaient surtout dépourvus de toute instruction chrétienne, contrairement avec ce qui était le fondement du système de la encomienda. Et les lois nouvelles de 1542, élaborées par une série de réunions, d'assemblées dans lesquelles Las Casas avait participé, avaient décidé d'abolir la transmission héréditaire de ces encomiendas, qui non seulement avaient pour Las Casas et les défenseurs des Indiens cette conséquence dramatique de réduire les Indiens en esclavage et finalement, après les violences de la conquête, de leur exercer une seconde violence qui les faisait disparaître, mais avait peut-être aussi pour le roi, l'empereur et le prince, la fin de ne pas constituer une aristocratie héréditaire de propriétaires terriens capables de fortifier au fil des transmissions des patrimoines leur puissance. Donc ces lois nouvelles qui vont être corrigées assez rapidement par la suite de la protestation, évidemment, des colons, vont être corrigées par le fait qu'on rétablira un principe de transmission, au moins pour la première génération. Alors, pour en terminer avec ce contexte historique, on peut aller au dernier contexte, c'est-à-dire au troisième, celui de l'imprimerie. Et ici, je reprends donc le texte de Migrod. En voyant, quelques ans après, c'est-à-dire 10 années après, ce qui est advenu en 1542, beaucoup d'hommes qui n'avaient sentiment ni compassion aucune, étant par avarice et ambition dégénérés d'humanité, et qui par leurs œuvres exécrables ont été mis en un sens réprouvés, lesquels, non contents de félonie et méchanceté par eux commises en la destruction de tout ce monde, par des façons étranges de cruauté, importunait aussi le roi pour, avec son aveu et autorité, les aller commettre une autre fois ou faire des choses pires, si pires il y en pouvait y avoir. Il s'avisa de Las Casas de présenter ce sommaire de ce qu'il en avait écrit et mis par mémoire au prince notre Seigneur, afin que son Altesse fît tant qu'elle leur fût refusée. Et il lui a semblé expédient de le faire imprimer à ce que son Altesse le pût lire plus aisément, et est cette-ci la cause du présent sommaire ou très brève information. On a donc la troisième temps, après la relation orale, après la mise par écrit, l'idée de la mise en imprimé. Et ici, évidemment, le contexte historique qu'on entend, c'était la résistance des colons à l'application des Leyes Nuevas pendant les 10 années entre 1542 et 1552. Les éléments chronologiques qui permettent de comprendre ces 10 années et le passage du manuscrit à l'imprimé sont, d'une part, le fait qu'en 1543, comme je l'ai dit pour commencer, Las Casas a été nommé évêque du Chiapas. Il est retourné donc en Amérique en 1544, l'année suivante, et avec ce projet d'établir cette colonie idéale, appelée colonie des Verapaz, de la vraie paix, avec uniquement des frères missionnaires assurant une conversion pacifique des Indiens et une présence exclusive des missionnaires. Le deuxième élément est que, par rapport au manuscrit de 1542, Las Casas va ajouter des chapitres en 1546, alors d'ailleurs qu'il est à Mexico pour un concile ou une réunion des évêques de Nouvelle-Espagne qui doivent décider à propos de la confession. Et cet état de 1546 est connu par un texte dont il n'existe des copies que pour le XIXe siècle, mais qui est un texte qui a pour titre « Histoire sommaire et relation très brève et véritable de ce qu'a vu et écrit le révérend père Fray Bartolomé de la Peña ». Donc un texte qui est sous un nom pseudonyme et qui est un état intermédiaire, en quelque sorte, entre le manuscrit de 1542 et l'édition imprimée de 1552, connue seulement, je le disais, par des copies, trois copies du XIXe siècle, mais qui ajoute au texte de 1542 les éléments plus récents sur la Floride, le Rio de la Plata et le Pérou, et en même temps qui est une réécriture par quelqu'un qui transforme, abrège, altère le texte de Las Casas. Mais c'est un chaînon entre 1542 et 1552. Finalement, en 1547, Las Casas revient définitivement en Espagne, renonce à son épiscopat en 1550, et c'est là où se situe l'épisode le plus fameux de la trajectoire de Las Casas, c'est-à-dire la controverse de Valladolid avec Sepúlveda. Alors, pour terminer cela, les deux enjeux essentiels à ce moment-là, dans ces années 1542-1552, et en particulier autour de la controverse de Valladolid, sont deux enjeux qui portent le premier sur la légitimité des guerres faites aux Indiens, et ces guerres faites aux Indiens sont illégitimes si est reconnue, selon les principes du droit naturel, la souveraineté des princes indigènes, ou elles sont considérées si légitimes si est reconnue la force de l'acte que l'on appelle requerimiento et qui était la déclaration d'obéissance volontaire à la souveraineté du roi d'Espagne par les princes indiens. Et évidemment qui pouvait être considéré comme la lecture d'un acte qui était absolument non compris par ceux qui étaient supposés l'accepter. Donc il y a ce premier enjeu autour de la légitimité ou de l'illégitimité de la guerre, puisque dans le deuxième cas, évidemment, si les princes indiens avaient accepté ce transfert de souveraineté, toute rébellion pouvait être considérée comme une raison légitime pour leur faire la guerre. Ce texte du requerimiento étant la traduction juridique, en quelque sorte, de ce qu'avait été la bulle pontificale de 1493 qui attribuait à l'Espagne la souveraineté sur toutes les terres, comme disait le texte, en direction des Indes, avec, comme contrepartie de cette souveraineté, l'obligation de l'évangélisation. Le deuxième enjeu, dans les controverses, la controverse de Valladolid et dans toutes ces controverses de ces 10 années, c'est la légitimité de l'asservissement des Indiens. Il est légitime si, comme Sepúlveda et beaucoup d'autres, on leur dénie l'identité humaine, qu'on les considère comme dépourvus de raison et finalement basculer plus ou moins dans l'animalité, ou bien elle est illégitime si, comme le faisait Las Casas, on le reconnaît à la fois âme et raison, et les considère comme des hommes à part entière. Cette tension entre l'animalité et l'humanité, elle était dès l'origine de la conquête, et un des textes qui est cité par Las Casas dans son Historia de las Indias et qui a pu être un de ses éléments dans la rupture, dans la conversion, son abandon du statut d'encomendero et la prise de conscience de l'illégitimité sinon de la conquête, mais de la manière à travers laquelle elle s'exerce, c'était le sermon de 1511 d'un frère Fray Antonio Montesinos dans l'île Hispaniola, à Saint-Domingue. Et ce serment, dans lequel Montesinos, je vais terminer avec lui, est comme inspiré, habité par la voix du Christ, est connu par la copie qu'on avait fait, qu'on a fait Las Casas dans son Historia de las Indias. Et j'en donne ici la lecture avec la traduction qui avait été faite dans un petit livre ancien, évidemment, de la collection Archives, qui avait pour titre « Las Casas et la défense des Indiens », présenté par Marcel Bataillon et André Saint-Luc. Cette voix, c'est-à-dire la voix de Dieu qui habite Montesinos, vous crie que vous êtes tous en état de péché mortel, que vous vivez et mourrez dans cet état, colon, en raison de la cruauté et de la tyrannie dont vous faites preuve à l'égard de ces peuples innocents. Dites, de quel droit et en vertu de quelle justice tenez-vous ces Indiens dans une si cruelle et horrible servitude ? Qui pouvait vous autoriser à faire toutes ces guerres détestables à des gens qui vivaient tranquillement et pacifiquement dans leur pays et à les exterminer en nombre si infini par des meurtres et carnages inouïs ? Comment pouvez-vous les opprimer et les épuiser ainsi sans leur donner à manger ni soigner les maladies auxquelles les exposent mortellement les tâches excessives que vous exigez d'eux ? Et encore serait-il plus juste de dire que vous les tuez pour extraire et amasser votre or quotidien ? Et quel souci prenez-vous d'assurer leur conversion et de veiller à ce qu'ils connaissent leur Dieu et Créateur, qu'ils soient baptisés, qu'ils entendent la messe et gardent les fêtes et les dimanches ? Ces gens ne sont-ils pas des hommes ? N'ont-ils pas une âme, une raison ? N'êtes-vous pas obligé de les aimer comme vous-même ? Vous ne le comprenez donc pas ? Vous ne le sentez pas ? Comment pouvez-vous dormir d'un sommeil si profond, si léthargique ? Soyez persuadés que dans l'état où vous êtes, vous ne ferez pas plus votre salut que les Maures ou les Turcs qui ignore ou méprise la foi de Jésus. Et Las Casas commente, finalement, il développa si bien la signification de cette voix, dont il avait d'abord souligné la gravité, qu'il laissa l'auditoire dans la stupéfaction et que beaucoup se sentirent défaillir. Mais si certains furent pris de quelques regrets, d'autres s'en retournèrent plus endurcis qu'avant, et de toute façon, comme je le compris par la suite, pas un seul ne fut converti. Et on voit que le texte de Montesinos, sans l'armature juridique sur laquelle je reviendrai dans la deuxième heure, qui est une armature de la théologie thomiste, quant à la légitimité des titres à la conquête, pose évidemment les questions qui vont être celles des controverses et qui sont les questions de à la fois de l'illégitimité de l'asservissement des Indiens, de la nature humaine des populations et finalement de la damnation, non pas de ceux qui ne sont pas instruits dans la foi chrétienne par l'absence de toute attention donnée par les encomenderos, mais des colons eux-mêmes qui sont dans un état de péché mortel en commettant ces crimes. Donc on a là le contexte, finalement, de l'année 1552, qui est la date de publication du texte et par laquelle je recommencerai cette analyse. On peut donc prendre, à notre habitude, 5 minutes de pause, reprenant à 11h10.